réveillé.
Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Il y avait des conflits de personnes au sein de l'église orthodoxe. C'est ce qu'a déclaré un membre de l'église de Lyon après l'agression d'un prêtre grec de cette même église. Il a reçu 2 balles hier après-midi alors qu'il fermait le bâtiment et est gravement blessé. Si on ne connaît pour l'instant pas les motivations de son agresseur, les enquêteurs penchent pour un différend entre le prêtre et un ancien membre de son église. Contrairement à ce que j'ai beaucoup vu et entendu sur les réseaux sociaux ces derniers jours, notre pays n'a de problème avec aucune religion. C'est le message posté hier par Emmanuel Macron sur Twitter. Le président a donné hier une interview sur Al Jazeera, sur laquelle il revient sur le comportement du président turc Erdogan, qu'il juge belliqueux et demande, je cite, que le président turc respecte la France, respecte l'Union européenne, respecte ses valeurs, ne dise pas de mensonges et ne profère pas d'insultes. Covid-19, Olivier Véran s'est dit modérément optimiste sur la capacité de la France à avoir un vaccin dans les mois à venir. Le ministre de la Santé prévient que Noël ne sera pas une fête normale cette année. Rentrée des classes, les élèves retournent demain sur les bancs de l'école. Les règles sanitaires sont renforcées dans les établissements scolaires. Le port du masque est obligatoire dès le CP. La limitation du brassage est encouragée lorsque c'est possible. Et le nettoyage des locaux doit être réalisé au moins une fois par jour. Et cette rentrée scolaire est particulière. Elle intervient après le meurtre du professeur Samuel Paty, qui a été décapité à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre. À cause de la crise sanitaire, la rentrée, qui devait avoir lieu à 10h, est maintenue à l'heure habituelle. Une minute de silence sera faite à 11h demain, après la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs. Dans l'actualité internationale, un homme muni d'une épée fait 2 morts dans la ville de Québec au Canada. L'homme était déguisé en tenue médiévale pour Halloween et a fait 5 blessés dans la nuit de samedi à dimanche. La police annonce avoir arrêté un suspect et demande aux habitants de rester chez eux pour le moment.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, dans ce flash local, on va commencer par un rappel concernant la Covid-19. Si vous souhaitez connaître l'ensemble des informations et recommandations au jour le jour et pour toute question concernant le virus, vous pouvez bien sûr appeler le 0800 130 000, 0800 130 000, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ou aller sur le site du gouvernement www.gouvernement.fr. Et puis, en ce qui concerne le gouvernement, il a mis en place toute une série de mesures pour faire respecter le confinement. Et ce soir, le Premier ministre devrait préciser des choses dans sa conférence de presse. Dans un tout autre registre, nous allons à la Celle-les-Bordes. L'éclairage public modifie ses horaires. Les armoires de commande de l'éclairage public sont équipées désormais d'horloges astronomiques synchronisées sur un référentiel national et pilotées depuis une plateforme internet. Suite à la mise en place de ces équipements et après avis du conseil municipal de la Celle-les-Bordes, les horaires de fonctionnement de l'éclairage public ont été modifiés de la façon suivante. Extinction de l'éclairage public à 23h, allumage à 6h et l'éclairage public restera allumé les nuits des 24 et 31 décembre. Il y aura des ajustement pendant la crise sanitaire, extinction de l'éclairage public à 21h et modulation en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales. Les modifications concernant les horloges, voies et le MOPA ne seront activées que dans le courant de la semaine prochaine. On va du côté de Saint-Arnoult en Yvelines. Fini les cotons-tiges en plastique que vous jetez dans votre poubelle et qui vont ensuite polluer la nature. C'est la promesse du premier coton-tige réutilisable et écologique inventé par monsieur Abdaoui, un ancien ingénieur en informatique. Ce nouveau coton-tige écologique est fabriqué dans une usine de Saint-Arnoult en Yvelines en attendant sa mise en vente dans le commerce. Il est conçu à base de silicone médical. Le dispositif a d'abord reçu le soutien du syndicat des médecins spécialisés.
Dans 3-7, dans quelques instants, on va retrouver Philippe Carnus pour votre émission Tribune Foot, évidemment, comme chaque premier dimanche du mois. Et juste avant, un petit point météo avec aujourd'hui des maximales à 18 degrés, avec un ciel qui restera malheureusement très pluvieux pour la journée. À présent, c'est Tribune Foot sur RVE jusqu'à 11h. Très bonne écoute.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnus.
Et oui, bon.
bonjour à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles en ce 1er novembre, donc en ce jour férié, hein, mais nous sommes là, certes à distance, hein, puisque notre pays est à nouveau confiné, donc ce sont les émissions qu'on vous proposera jusqu'à la fin de ce deuxième confinement à distance. Alors pour le Tribune Foot de ce matin, bon, on aura trois intervenants, trois invités. On aura notre ami José Vega en première partie pour eh bien le Paris Saint-Germain. On poursuivra avec notre ami Pierre Le Yanou, le goleador de l'Olympique de Marseille. Et puis on finira avec notre ch'ti, Francis Toche. José, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors, ce mois de football, José, hein, on va naturellement y revenir avec d'abord peut-être les Coupes d'Europe. On ne peut pas dire que ce soit parti. Particulièrement brillant pour l'instant pour nos clubs, et notamment votre club de cœur, hein, battu à domicile par Manchester United 2-1, et puis qui s'est à peu près bien rétabli cette semaine en gagnant à Istanbul 2-0. C'est quand même Manchester qui est en tête avec 6 points, PSG et Leipzig sont derrière avec 3 points. Oui. Ça veut dire que tout va être décisif dans les deux prochains matchs entre le Paris Saint-Germain et puis Leipzig.
Oui, je pense. Donc le PSG, là, malgré qu'ils aient passé un grand match à Istanbul, ils ont quand même réussi à gagner au bout d'une heure, parce que la première heure, c'était pas terrible. Et donc là, ils sont revenus à 3 points. Donc ils ont 3 points de moins que Manchester United. Mais je pense que ils vont pouvoir se qualifier, notamment contre peut-être Leipzig et au match retour contre Istanbul.
Comment expliquer un peu, José, ce début de saison un peu, j'allais dire, très moyen du PSG? Est-ce qu'ils ont un peu eu du mal à rebondir après la finale perdue de Ligue des Champions la précédente saison?
C'est vrai que après avoir perdu la finale contre le Bayern de Munich il y a quelques mois, c'est vrai qu'ils ont eu du mal à se remettre un petit peu dans le bain. Et on n'a pas un grand Mbappé comme les autres années, on n'a pas un grand Neymar. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas d'ambiance dans les stades ou très peu? Je ne sais pas, mais bon, ça n'explique pas tout. Ou alors, est-ce que le système de jeu de Thomas Tuchel n'est plus adapté à l'équipe du PSG? Je ne sais pas, mais il va falloir changer et puis remotiver les joueurs, parce que là, je les trouve pas très, très motivés.
Oui, c'est ce que l'on perçoit un peu quand même, qu'il y ait quelques petit problème entre Tuchel et puis ses joueurs via Leonardo. Il semble que ce soit pas l'unité totale au sein du PSG.
Je pense que Leonardo, comme c'est pas lui qui a choisi Tuchel, c'est pas sa tasse de thé. Bon, il a essayé, hein, depuis qu'il est là, mais je pense que il va se diriger peut-être au mercato hivernal vers un changement d'entraîneur si par malheur Tuchel ne se qualifie pas ou perd encore des matchs importants. Je pense que il y a Allegri, l'ancien entraîneur de la Juve, qui est pas loin, ou d'autres qui sont libres. Et je pense que Leonardo, il va prendre les choses en main quand même. Et puis je pense que il va remotiver les joueurs. Il va changer de stratégie. Et certainement, comme je vous dis, s'il n'y a pas les résultats au bout, il changera l'entraîneur, je pense.
En tout cas, ça n'empêche pas le Paris Saint-Germain de commencer à prendre le commandement des opérations en championnat. On s'y attendait, hein, puisque oui, avant la 9e journée de ce week-end, Paris donc a rejoint Lille en tête avec 18 points. Marseille est à 3 longueurs avec Rennes. Lille est 5e avec 14 points. Bon, ça ne sera pas une surprise. La machine du PSG va se mettre en route concernant donc nos
championnats. Oui, mais bon, on l'a dit à maintes reprises que en championnat, il y avait Paris Saint-Germain et les autres. Je pense que cette année, ça sera encore à peu près la même chose, malgré qu'il y ait Lille qui pousse un petit peu, mais on n'en est même pas, on est au début du championnat, quoi. Mais ce qui sera intéressant, c'est qu'ils jouent un petit peu mieux et qu'ils sortent des grands matchs en Coupe d'Europe contre les grands, comme par exemple Manchester United au match retour. J'espère qu'ils font un meilleur match qu'à l'aller, parce que là, sinon, c'est à désespérer. En championnat, j'allais dire presque on s'en fiche, mais on s'en fiche pas, mais on sait qu'en championnat, ils survolent le championnat. Mais ce qui sera intéressant, c'est en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, qu'ils fassent des super matchs, qu'ils arrivent à gagner et aller au bout.
Alors José, c'est souvent ce qu'on a dit, est-ce que c'est pas ça le problème, justement, du fait que les clubs français sont très moyens en Coupe d'Europe, du fait qu'on est un championnat avec un seul club qui survole ce championnat et qui n'est pratiquement pas d'opposition?
C'est vrai qu'on l'a dit à plusieurs reprises que le PSG survole le championnat. Il faudrait peut-être qu'il y ait des équipes qui titillent un peu plus le Paris Saint-Germain en championnat, mais il faut des investisseurs. Et si on n'arrive pas à attirer des investisseurs qui misent sur des grands joueurs pour relancer le championnat, pour que le championnat soit un peu plus attractif, bah, on va avoir des problèmes. On aura toujours le PSG puis les autres. Et donc ça, c'est pas terrible. Alors, Lyon, pendant un moment, on survolait les championnats. Ils ont gagné, je crois, 7 championnats d'affilée. On sait ce qui est en train de se passer avec le PSG, mais arrivé à un moment, il faudrait qu'il y ait un peu plus de concurrence, je veux dire.
Oui, alors c'est probablement nos difficultés en Coupe d'Europe, également pour Marseille, battu à Olympiakos 5-0, et qui a pris, j'allais dire, une trempe à domicile devant le Guardiola de Manchester City, de Guardiola, 3-0. Marseille est déjà bon dernier avec 0 points. Ça va.
Oui, c'est vrai que... Voilà, Manchester City a 6 points, on a le FC Porto qui a 3 points juste derrière, puis l'Olympiakos qui a 3 points également, et on retrouve donc dernier du groupe C, Marseille avec 0 points. Et alors est-ce que le fait à l'intersaison qu'il y a eu des problèmes entre Villas-Boas et qui voulait partir et, parce que il n'a pas eu le recrutement qu'il espérait, est-ce que ça a démotivé les joueurs ou je ne sais pas du tout, mais là c'est vrai que Marseille ça devient problématique avec 0 points. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir se qualifier contre. Là, je crois que le prochain match, c'est ouais, c'est Porto. Et oui, je pense qu'ils n'ont pas gagné encore à Porto. Hein.
Mmh. Oui, ça paraît très, très mal engagé pour l'Olympique de Marseille. Et puis Rennes, qui a fait match nul devant le Crano-Star 1-1, qui a été battu sans démériter à Séville 1-0, même si Gomis a fait un match extraordinaire et a probablement évité une défaite plus large aux Rennais. Les Rennais sont le dernier avec Crano-Star avec 1 point.
Avec 1 point.
Naturellement, Chelsea et Séville sont en tête avec 6 points. Bon, si Rennes sort de la poule, ça sera un bel exploit, je veux dire.
Oui, Chelsea survole ce groupe E avec 4 points pour le moment à égalité avec le FC Séville. Et donc on a le FC Krasnodar et Rennes qui sont avec 1 point. Je pense que si Rennes réussit à gagner contre Séville, il se retrouve à égalité 4 points, mais ça, il faut encore le faire. Mais c'est
faudra les gagner, ça sera difficile quand même. Hein.
Oui, je pense que ça sera difficile. Sans oublier que quand même le FC Séville, il a remporté 3 fois de suite
l'Europa
League, notamment quand il y avait Unai Emery. Et là, c'est vrai que ça sera difficile pour elle. Mais bon, ils ont quand même une petite chance. On va dire qu'ils ont une petite chance.
Oui, il faudra aller gagner à Chelsea, il faudra battre Séville au match retour à Rennes, ça sera en tout cas très très compliqué. Bon, ça va un peu mieux en Europa League pour nos équipes françaises, puisque Nice, malgré une nette défaite face au Bayer Leverkusen 6-2, a bien rétabli la situation. Ils se sont imposés cette semaine devant la Paule Pierre-Chéra, donc un club israélien 1-0, ce qui fait que toutes les équipes sont à égalité avec 3 points. Et puis Lille avait cartonné à Prague en s'imposant 4-1 devant le Sparta. Et puis Lille a partagé hier le point du match nul en revenant de très loin contre le Celtic Glasgow 2-2. Ce qui fait que pour l'instant, c'est Milan AC et Lille qui sont en tête avec 4 points. Devant Glasgow, 1 point et Prague, 0 point. Milan AC et Lille, ce sont les deux prochaines rencontres. Lille peut se qualifier, sans problème.
Oui, je pense que... Surtout que en championnat ils sont très bien, ils sont décontractés, ils sont à égalité de points avec le PSG et donc je pense que contre le Milan AC ils peuvent faire un résultat et ramener au moins un point ou voire pourquoi pas 3 points et se retrouver bien positionné dans ce groupe.
Oui, en tout cas, c'est l'équipe la plus peut-être séduisante pour l'instant que l'on voit. Pour Nice, c'est jouable aussi.
C'est jouable, tout est jouable. Un match, ça peut jouer, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, à des petits détails. Après, bon, en championnat, Nice, ils sont pas très, très, très bien en ce moment, mais je pense qu'ils vont arriver à jouer correctement et puis à pourquoi pas éventuellement se positionner pour pouvoir se qualifier.
Oui, et puis l'Europa League, ça correspond quand même peut-être mieux au niveau de nos clubs français. Oui. Donc, Lille et Nice peuvent sortir de cette phase de poule, contrairement à Saint-Etienne et Rennes l'année dernière.
Bah, Ça serait bien une bonne fois pour toutes qu'on soit motivé, que ce soit en Champions League ou en Europa League, que les clubs français aient un peu plus de niaque et qu'ils essayent d'aller au bout, parce que on le dit, on le répète, ils font tout ce qu'il faut pour y aller, et une fois qu'ils y sont, ils y vont, on croirait que par moment, il y a certains matchs, on dirait des matchs d'entraînement. Bon, je veux bien qu'en ce moment, qu'il n'y ait pas d'ambiance, trop d'ambiance dans les salles comme il y a un an ou deux, mais quand même, quand on va en Europa League ou en Ligue des Champions, c'est pour jouer à fond, quoi. Vous voyez les clubs anglais, les clubs espagnols, ils lâchent pas le morceau. C'est 90 minutes à fond. Alors je vois pas les clubs français ne sont pas motivés, je sais pas.
Oui, peut-être pour pas prendre de risque, ne pas vouloir perdre les matchs, c'est toujours les derniers
problèmes. Oui, mais à ne pas perdre, il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien, quoi. Après, on se désintéresse. Moi, des fois, j'aimerais bien voir des matchs, mais quand je vois comment ça tourne, je change de chaîne. Des fois, je ne regarde même pas les matchs. Des fois, il vaut mieux regarder, des fois, les filles, c'est plus lent, mais au moins, voilà, ça désespéré par moment. Heureusement que tout n'est pas comme ça, mais par moment, c'est vraiment ridicule.
Bon, une équipe qui ne perd pas, c'est l'équipe de France, hein, même si c'est pas toujours très spectaculaire. On sait qu'au mois de septembre, on avait parlé dans l'émission de rentrée, elle avait gagné en Suède 1-0 et battu, certes difficilement, mais battu la Croatie 4-2. Bon, voilà, elle est allée gagner en Croatie, plus ou moins difficilement aussi 2-1. Et il y a eu un non-match, j'allais dire, entre Français et Portugais 0-0. Les deux équipes étaient très proches l'une de l'autre, hein, José.
Oui, c'est vrai. Et puis bon, il y a le match retour à Lisbonne, je crois, c'est le 14 novembre ou quelque chose dans ce genre-là. Je crois que ça va être un peu plus ouvert qu'au match aller à Saint-Denis, là où ils avaient fait 0-0. Je pense que là, ça va être un peu plus ouvert, puisque la première place du groupe se joue. Le Portugal est en tête juste à la différence de but. Mais je pense que l'équipe de France, malgré qu'elle ne joue pas un jeu très spectaculaire, à chaque fois, le résultat est là. Ils ne perdent pas, c'est bien déjà. Mais je pense que au Portugal, ça sera un meilleur match. Et de la part de l'équipe de France et de la part du Portugal, ça sera peut-être un match un peu plus ouvert, avec plus d'action.
Oui, parce qu'on est un peu resté sur notre fin, mais est-ce que l'objectif de ces deux nations, c'est pas justement l'Euro en 2021, peut-être plus que celle-ci des nations?
Je pense que les deux du groupe, ça sera France-Portugal ou Portugal-France, les deux premiers. Après la Croatie, ils n'ont pas non plus, quand il n'y a pas Modric, c'est une jeune équipe qui est en reconstruction aussi, et il y a quelques individualités, mais c'est plus l'équipe de la Croatie qu'on a connue pendant la Coupe du Monde, il n'y a rien à voir, hein.
Et puis il faut rappeler qu'il faut finir impérativement première cette poule, hein, quoi qu'il arrive.
Ah oui.
On veut poursuivre l'aventure dans la Ligue des Nations.
C'est sûr. C'est pour ça que l'équipe de France, s'ils veulent terminer premier, ils ont intérêt à faire un résultat correct à Lisbonne le 14 novembre, dans une quinzaine de jours.
Bon, José, on a commenté l'actu foot de ce mois-ci. Il y a eu quand même une énorme actu au cours de ce mois. Ce sont les droits télé, hein, malheureusement, qui remettent tout le football professionnel français donc en cause. Il y a péril en la demeure. Hein, on sait que Bédia n'a pas pu honorer ses échanges. Ils doivent payer 814 millions annuels. Ils n'en ont payé que 172 millions pour l'instant par trimestre. Ils n'ont pas payé l'autre échéance.
On a donné les droits de télé à Mediapro, à un consensus chino-espagnol. Et c'est peut-être pas ce qui a été fait de meilleur, puisqu'on n'a pas peut-être pas pris les garanties suffisantes pour savoir s'ils pouvaient payer, parce que ça s'élève quand même au-dessus du milliard 200 ou un truc comme ça. Par rapport
à ça, c'est pour la Ligue 1, hein, parce qu'il y a la Ligue 2.
Oui, juste pour la Ligue 1, oui. Après, quand on a le Canal Plus, ça a toujours été payé, ils ont toujours été corrects. Et là, on a voulu donner à un média étranger, et puis voilà le résultat. Il y a des clubs de Ligue 2, notamment, qui vont être en très grande difficulté financière, justement à cause des droits de télé.
Oui, l'échange de 172 millions d'euros qui n'a pas été payé. On sait que jadis, ça avait été le cas avec TPS, avec Orange, avec Minsport, avec Altice. Est-ce que finalement, ce ne sont pas des droits trop chers aussi? Parce qu'on disait le manque de spectacle de Ligue 1, mais ça n'incite pas à s'abonner à 25 euros.
Oui, tout à fait. C'est vrai que avec les droits télé qui ne sont pas payés, c'est pas terrible, quoi. Je sais pas comment on va s'en sortir, comment que les clubs vont s'en sortir.
Très bien, bon, on parlera de tout ça le mois prochain. Merci José, hein, rendez-vous.
Oui. Donc, merci à vous.
Décembre pour le prochain Tribune Foot. Et puis, on va marquer une petite pause. Et puis, on va aller voir maintenant du côté de notre ami Pierre et de l'Olympique de Marseille.
Ok, à bientôt. Merci.
Let's Pro France, des compagnons électriciens de Rambouillet. Des problèmes d'électricité? Besoin d'un dépannage, d'un conseil électrique? Une installation électrique ou d'éclairage LED? Let's Pro France. Une rénovation électrique de maison, commerce, industrie, particulier ou professionnel? Let's Pro France, c'est une équipe avec un savoir-faire familial, toujours professionnel, avec une garantie décennale. Let's Pro France, votre partenaire électricien proche de vous, c'est une équipe de compagnons électriciens qualifiés sur Rambouillet et sa région.
Les ampoules LED, projecteurs LED, bandeaux LED et des centaines d'articles LED à prix usine sont sur achatampouleled.com. Téléphone 01 30 88 97 54. 01 30 88 97 54.
Des vins de qualité pour votre repas de famille, entre amis, pour une réception ou un mariage, un cadeau original, un vieux millésime ou un whisky étonnant, alors plus d'hésitation. Venez découvrir au 135 rue Georges Lenôtre à Rambouillet, la cave Rambolitaine. Votre caviste indépendant, votre antiquaire du vin. Pour suivre nos animations, retrouvez-nous sur notre page Facebook, la cave Rambolitaine. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.
À Rambouillet, 14 bis rue Châles, SMA Fenêtre, votre spécialiste de la menuiserie extérieure, vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres. Store, volets, portes et portes de garage. Sur mesure, en PVC, bois ou aluminium. SMA Fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste SMA Fenêtre, 14 bis rue Châles à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Offargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE.
shit's going nowhere, baby. This sweet summer rain, I'm born again. All my broken pieces, this sweet summer rain, I'm born again. Oh, no.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Allez, avec après José Vega, bah, on va rejoindre notre ami Pierre, hein, le goleador de Marseille. Je voulais simplement vous dire que cette émission, vous pourrez naturellement la réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions depuis le début de saison. Pierre, bonjour.
Salut Philippe.
Alors, donc, bah, on a continué à commenter l'actu foot avec José, hein, du côté du Paris Saint-Germain. On va le faire également avec du côté de Marseille. Pierre, un petit mot d'abord. On voulait quand même dédier cette émission à Bruno Martini, qui nous a quittés. On l'avait fait la semaine dernière dans Tribune Sport. On voulait le prolonger avec Tribune Foot, hein, pour celui qui a été quelqu'un qu'on a bien connu du côté de la DTN et qui a été un des bons gardiens du football français.
Oui, c'était quelqu'un de très discret, de très travailleur et de perfectionniste et un grand gardien de but, notamment de la JOCR. J'envoie mes condoléances à toute sa famille et à tous ses proches, bien évidemment.
Oui, on l'avait souvent côtoyé à Clairefontaine. C'était quelqu'un de très discret, mais aussi de très ouvert. On a aussi de bons souvenirs avec lui sur certaines réceptions sportives dans la région de Rambouillet. Bon, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'ait pas appartenu, j'allais dire, à la meilleure génération du foot français, une génération qui a été privée très longtemps de championnat d'Europe et de Coupe du Monde.
Malheureusement, il n'aura pas eu le but de gagner des grands titres avec l'équipe de France, mais... tout le monde reconnaît sa juste valeur, qu'il a fait partie du staff et que c'était quelqu'un d'important dans le foot français.
Alors Pierre, on a commenté donc les résultats de ce mois d'octobre avec José. Qu'en pense-t-on du côté de l'Olympique de Marseille, début très, très très difficile en Coupe d'Europe, hein.
Ça
rétablir la situation maintenant, hein.
C'est mitigé, puisque bon, c'est vrai qu'en championnat... on va dire que pour l'instant, on est dans les temps, voire mieux, mais...
Troisième avril pour l'instant, avant cette deuxième journée. Voilà.
Oui, voilà, c'est ça. Mais après, bon, c'est vrai qu'il suffit de voir les matchs et on n'est pas aveugle. Hein. Le jeu n'y est pas du tout. C'est vraiment compliqué. Pour les joueurs cadres, hein, comme Dimitri Payet ou Dario Benedetto, l'avancante, mais aussi pour l'entraîneur, qui utilise plusieurs formules et qui trouve pas justement la bonne formule. Puis en Coupe d'Europe, on touche le fond. C'est contre l'Olympiakos, je dirais qu'il y a eu un non-match et on n'a vu aucune envie de la part des joueurs. Mais contre Manchester City, c'est différent en fait. C'est-à-dire que une formule avait été mise en place pour essayer de contrer et d'attendre derrière. Et puis finalement, ça n'a pas du tout marché. Et moi, personnellement, en tant que supporter marseillais, j'ai trouvé cette prestation vraiment affligeante.
Oui, est-ce qu'on n'est pas reparti sur un parcours identique à celui d'il y a quelques années où il y avait eu un zéro pointé à l'arrivée? Parce qu'il y a deux matchs qui se profilent contre Porto. Ensuite, naturellement, il y aura les matchs retour contre Manchester City à Manchester et puis la réception contre l'Olympiakos. Ça s'annonce compliqué.
Ça s'annonce compliqué. Moi, je sais que la plupart des observateurs étaient contents et heureux de voir le groupe de Marseille quand on l'a tiré. Mais au final, ça nous met plus la pression puisqu'il faut qu'on finisse. On a la possibilité de finir troisième, voire deuxième, mais ça nous met encore plus la pression. Et du coup, j'ai l'impression que les joueurs jouent la balle leur brûle les pieds, quoi, d'une certaine manière, et que cette histoire aussi de record qui se rapproche. Si on perd à Porto, on aura 12 défaites de suite en Ligue des Champions. On égalerait le record d'Anderlecht. Donc ça va être compliqué et j'espère qu'on va réussir à faire un résultat à Porto, histoire quand même encore d'espérer avoir la troisième place. Mais ça va être compliqué, ça va être compliqué. Parce que c'est vrai que notre effectif est assez court, mine de rien, et que les matchs s'enchaînent et du coup bah on voit les limites de l'OM cette année.
Est-ce que le courant passe bien à nouveau avec Villas-Boas? C'est un peu le sentiment qu'on a, un peu comme au PSG avec Terol.
Non, je pense pas qu'il y ait de problème je pense pas qu'il y ait de problème avec les joueurs. Je pense que
parce que lui, c'était plein de manque de moyens quand même. Hein,
oui, alors oui, ouais. Voilà, il y a sûrement des problèmes avec sa direction. Il a failli partir cet été. C'est les joueurs qui l'ont poussé à rester. Mais ils savaient dans quoi ils s'engageaient. Marseille a des problèmes de finances. Ils ont recruté au rabais des petits jeunes et des prêts. Donc on sait que c'est compliqué, mais je pense que là, ces deux matchs, il va falloir les oublier. Puis, il connaît bien la maison Porto. Porto, c'est pas non plus le Porto des grandes années de Mourinho. Et je pense qu'il a la possibilité d'aller faire un résultat là-bas. En plus, d'une certaine manière, on a un peu de chance puisque notre match contre Lens a été reporté puisqu'ils ont énormément de cas de Covid. Donc, ça laisse le temps de préparer le match. Il faut absolument faire un résultat là-bas pour apaiser la situation, parce que c'est vrai qu'on voit aussi en conférence de presse André Villas-Boas qui commence un peu à perdre des nerfs. Mais donc je pense qu'il faut absolument faire un résultat à Porto pour endiguer tout ça et puis encore espérer être au moins troisième et faire un parcours en Europa League. On peut le faire.
Oui, on va faire ce que Marseille avait fait il y a maintenant 3 ans, hein, en 2018, avec donc cette finale perdue contre l'Atlético.
Voilà, c'est ça. Non, il y a la possibilité, c'est sûr. De toute façon, on va pas se mentir. Hein. L'Olympique de Marseille aujourd'hui, c'est une bonne équipe d'Europa League. Hein. On est en Ligue des Champions. On peut pas espérer aller loin comme les grandes équipes, comme Lyon l'a fait l'année dernière. Il y a des exploits possibles, mais pour nous, c'est trop compliqué. C'est trop limité dans le jeu. On a trop un effectif court et. Et puis bah surtout il faudrait que les cadres comme Dimitri Payet qui normalement est le vice-capitaine de cette équipe se mettent au diapason. Quand on voit la saison de Steve Mandanda, il faudrait qu'il se calque sur ça et qu'il arrive à hausser son niveau de jeu, parce que là pour l'instant vraiment c'est compliqué.
Alors Pierre, j'ai le sentiment que c'est un proche qu'on peut faire un peu à tout l'ensemble du football français, parce que on parle de Marseille, bon, Rennes fait un début, j'allais dire, à son niveau, mais le Paris Saint-Germain n'a pas été très éteint, on en parlait avec José. Qu'est-ce qui explique ce début à se mitiger des clubs français?
Mais je pense que les contextes sont différents, en fait. C'est-à-dire que pour Rennes, c'est une compétition qui découvre. Ils font au mieux, comme Lille l'avait fait l'année dernière, mais au moins, comme au contraire de Paris et de Marseille, je trouve qu'ils sont pas. Oui, et contrairement à Paris, alors Paris, c'est encore d'autres problèmes. On sent qu'il y a des problèmes internes, quoi. C'est-à-dire Tourelle, il s'entend plus du tout avec Leonardo. J'observe aussi Paris. Je regarde les matchs en Ligue des Champions et. On comprend pas pourquoi Tourelle met Marquinhos en milieu défensif alors que c'est un des meilleurs défenseurs centraux actuellement. Et puis surtout qu'ils ont recruté un joueur normalement pour faire cette sentinelle qui est Danilo Pereira. Ça, on comprend pas. Et puis quand les journalistes sportifs lui posent des questions, ils s'énervent, ils s'agacent. On a un peu l'impression qu'ils se tirent une balle dans le pied. Heureusement pour Paris, contre l'Istanbul Başakşehir. Ils ont réussi à faire le boulot malgré une prestation assez terne. Heureusement qu'ils ont des individualités, mais ils donnent encore le sentiment que ça va être compliqué cette année et que l'environnement du club fait que c'est pas encore un grand club comme peut l'être le Bayern, la Juventus, le Real ou le Barça. Quoi. Ça manque de quelqu'un qui tape du poing sur la table. Donc c'est pour ça que le contexte est assez particulier pour Marseille, Rennes et Paris.
Bon, Rennes ne tombe pas dans un groupe facile. Chelsea, Séville, bon, s'ils sont troisième de ce groupe, ils auront pu venir remplir un contrat. Mais c'est vrai que le PSG, on se demande même si carrément les joueurs n'ont pas lâché leur rôle, quoi.
Voilà, c'est ça. Exactement, Philippe, on se demande si ils veulent continuer avec cet entraîneur. Mais après, bon, de ce que j'ai entendu, c'est compliqué aussi pour le Paris Saint-Germain de se séparer de Thomas Tuchel, puisque ça leur coûte très cher. Et qu'ils ont des obligations au niveau du fair-play financier. Donc on verra bien la suite. Après, bon, moi, malgré tout, je pense qu'ils vont réussir à se qualifier sans problème pour aller en huitième de finale. Mais on attend plus de cette équipe-là. C'est censé être un top 5 européen qui doit pouvoir survoler ses matchs en Ligue des Champions, quoi. Et là, c'est pas le cas. Il y a encore, pour revenir à Rennes, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que, bon, contre Séville, c'est quand même compliqué. C'est quand même le vainqueur de la Ligue Europa en titre. C'est surtout contre le FK Krasnodar qu'ils doivent avoir des regrets, puisque à domicile contre cette équipe russe, c'est là où il fallait qu'ils prennent des points. Ils ont eu le match nul. C'est là où ils auront des regrets. Maintenant, il va falloir essayer de faire des résultats, que ce soit à Krasnodar ou chez soi contre Séville ou Chelsea, mais ça va être très compliqué.
Et puis pour l'Europa League, par contre, bon, naturellement, c'est un peu mieux quand même. Lille est en tête avec le Milan AC. Bon, ça va être les deux équipes peuvent sortir de la poule. Et puis, bah, dans le groupe de Nice, tout le monde est à égalité, quoi.
Oui, voilà. Bah après, bon, il y a eu la désillusion de Nice en Allemagne, 6-2. C'est vrai que ça fait mal, mais on peut dire que c'est un accident et que c'est des choses qui arrivent. Maintenant, ils ont gagné contre l'équipe Israël de Beersheba. Il y a possibilité pour Nice de sortir du groupe. Ils ont un effectif conséquent pour pouvoir en plus tourner entre le championnat et la Ligue Europa. C'est surtout Lille en fait qui fait des bons résultats. C'est assez similaire avec le championnat. Ils sont réguliers. Ils ont un effectif aussi qui est intéressant. Puis bah moi j'aime beaucoup Christophe Galtier, leur coach. Je pense que s'ils arrivent à sortir du groupe, ils peuvent peut-être faire quelque chose dans cette Ligue Europa. Hier, on a vu l'abnégation qu'ils ont fait preuve avec ils perdaient 2-0 face au Celtic Glasgow. Ils sont revenus à 2-2. C'est un bon résultat.
Ouais, c'est ce qui explique, on l'a dit, leur bon championnat. Ils sont en tête à égalité avant cette 9e journée avec le PSG. Bon, là, on va se répéter. Hein, Paris Saint-Germain commence à être sur orbite. Est-ce que Lille peut un tout petit peu les titiller, Pierre?
Non, je pense pas. Non. Je pense que quand même Paris va comme toutes les années être champion, mais peut-être un peu plus tard. Au lieu d'être champion en mars, ils seront champions en avril. Mais faudra voir Lille sur la durée. Après, c'est vrai que le championnat a commencé maintenant il y a quelques temps et qu'ils sont assez réguliers. Mais là, je crois qu'ils affrontent Lyon ce week-end. Donc déjà, ce sera un premier test. On verra ce que ça donne. Faut voir sur la durée parce que ils sont capables de faire des très bons matchs et puis après je les ai vus contre Reims je crois où c'était un peu compliqué parfois ils ont un peu des oublis dans leur jeu mais ça arrive à toutes les équipes mais je pense que Lille peut finir sur le podium bien évidemment mais il faut voir un peu plus sur la durée parce que là c'est vrai que tout s'enchaîne les matchs européens les matchs championnats ensuite il va y avoir la coupure avec l'équipe de France. Il va falloir voir sur la durée parce que s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de suspension, c'est aussi là-dessus que tout va jouer.
Oui, et puis justement, l'équipe de France, bah, on en a aussi parlé avec José, une équipe de France qui ne subit peut-être pas toujours, mais qui ne perd pas. Hein. Bon, même si elle s'est fait plaisir contre l'Ukraine 7-1 au cours d'une belle soirée, où Giroud a pu battre ainsi le record de buts de Platini, il y a eu un 0-0 contre le Portugal, il y a eu deux victoires contre la Croatie, mais l'équipe de France a cette culture gagne, elle ne perd pas, même si elle ne séduit pas tout le temps, Pierre.
Non, c'est vrai que, bon, Philippe, tu connais beaucoup l'équipe de France et j'ai l'impression qu'on se répète, c'est-à-dire que dans les matchs, même si maintenant on n'appelle plus ça des matchs amicaux, mais bon, ça reste quand même des matchs amicaux pour moi, la National League. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'équipe de France, en match amical, elle a toujours eu un peu de mal et que même contre les petites équipes, le jeu a jamais été vraiment très flamboyant, mais c'est vrai qu'on ne perd pas, donc ça veut dire pour moi qu'il y a une marge de progression et puis... qu'on est solide d'une certaine manière. Il y a certaines révélations aussi avec Kamavinga que moi j'aime
beaucoup. Ça c'est un sacré joueur, hein. Ça c'est une pépite.
Ouais, hein. c'est vraiment une pépite.
Ah ouais.
Une pépite et puis moi je pense qu'il va s'installer durablement. Après bon, il faut qu'il continue à progresser avec Rennes aussi. Mais non, l'équipe de France après voilà solide, hein. C'est-à-dire que on s'attendait à un vrai combat aussi en Croatie, puis ça a été laborieux, mais bon, sur un éclair de génie, on a. C'est-à-dire que Pogba est revenu. Pogba, ça lui fait du bien à l'équipe de France. Et ça fait du bien à beaucoup de joueurs, notamment à Griezmann, etc., qui sont un peu en perdition dans leur club. Et quand ils reviennent en équipe de France, c'est une bouffée d'oxygène et ça, ils se retrouvent. On a l'impression que c'est la continuité de la Coupe du Monde, en fait, où ils se retrouvent en groupe et ils apprécient être ensemble. Puis là, on voit contre la Croatie une belle ouverture de Pogba pour Dini qui sente pour Mbappé. Donc on a des individualités qui nous permettent aussi de gagner nos matchs, même si c'est un peu compliqué dans le jeu. Donc moi, vraiment, l'équipe de France, puis en plus tenue par Didier Deschamps, je suis vraiment pas inquiet. Pour le match contre le Portugal, c'était un peu différent. C'est vrai que c'était un match fermé où les équipes ne se sont pas livrées.
Ouais, puis elle était trop proche l'une de l'autre, hein, Pierre.
Voilà, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. C'est dommage parce qu'on attendait un peu plus de spectacle pour ce match, mais non, pour l'équipe de France, vraiment pas inquiet.
Très bien. Juste 30 secondes, les droits TV, le football français qui peut être donc remis en cause, bah finalement, on paye beaucoup trop cher pour le spectacle proposé, c'est ça?
Oui. Personnellement, moi, je suis abonné à Téléfoot et c'est vrai que bon, c'est il faut maintenant moi amoureux du ballon rond, faut Téléfoot pour regarder le championnat français et la Ligue des Champions. Il faut Bein Sport pour regarder le championnat allemand, italien et espagnol. Il faut Canal Plus pour regarder le championnat anglais. Non, ça revient très très cher et le problème c'est que là aujourd'hui on j'ai entendu des observateurs encore qui disaient qu'on pouvait s'y attendre, hein, que Mediapro ne paye pas. L'Italie justement avait fait attention et avait mis des freins pour parce que Mediapro voulait aussi acheter les droits de la Serie A, mais ça s'est pas fait. Nous, je pense qu'on s'est un peu fait avoir sur le coup. Maintenant, on va voir si Vincent Labrune, notre nouveau président de la LFP, va réussir à gérer le problème. Mais moi, je suis pas trop inquiet parce que je pense que dans tous les cas, même si Téléfoot se retire, Canal Plus reviendra et achètera. Après, c'est surtout pour les clubs quoi qu'il va falloir faire attention et qu'ils soient pas en déficit. Mais je pense que pour l'instant, on sait pas tout et voilà.
Merci Pierre, en tout cas, bonne.
Merci Philippe.
Bonne semaine, à très bientôt puis on se retrouve.
Bonne continuation, au revoir.
Allez, puis maintenant, on va du côté de Lens avec notre ami Francis Coche pour la troisième et dernière intervention de cette émission.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Bâti Pro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans, confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur bâtipro-france.com.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loix Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
yellow. Ooh, Fanta the yellow. Fanta walking on the rainbow now. Fanta shivering in the moonlight way. Fanta hugging me on the mountain top. Fanta kissing me on the burning rocks. Sweet, sweet Fanta the yellow. Ooh, ooh, Fanta the yellow. Sweet, sweet Fanta the yellow. Fanta Diallo, one day Fanta freeway with the sun. I wonder one day Fanta make you wait under the sun. I wonder one day Fanta freeway with the sun. I wonder one day Fanta make you wait under the sun. Over and over again, she flew away with the sun. Over again, again, she melted.
Troisième intervenant de cette matinée footballistique, hein, je vous rappelle que nous sommes à distance depuis le confinement, ben, c'est notre ami Ch'ti Francis Coll. Je voulais simplement vous dire que la semaine prochaine, on parlera de la présentation du Tour de France 2021 qui sera connue ce soir dans le Stade 2, et puis on reviendra sur le rugby et sur le match d'hier entre la France et l'Irlande. Francis, bonjour.
Bonjour, bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors, comment va le football nordiste en ce début de saison?
Il va plutôt pas mal avec le LOSC, qui est second du championnat et encore invaincu. Il va un peu moins bien avec mon équipe de cœur Valenciennes, qui avait bien commencé, mais qui végète au milieu du tableau. Bon, là, on fait pas mal aussi, donc ça va pas trop mal.
Alors, oui, effectivement, Lens qui a deux matchs, qui va jouer deux matchs en retard, hein, parce que deux matchs à cause du Corona qui ont été reportés contre Nantes et contre Marseille. Francis, bon, ce début de saison au niveau du championnat, mais aussi au niveau des Coupes d'Europe, vous en pensez quoi? On a dit qu'avec José et puis Pierre, les résultats étaient assez mitigés au niveau des Coupes d'Europe, sauf peut-être en Europa League, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on ait pris un début de saison particulièrement folichon.
Non, mais bon, c'est faut dire que c'est vrai pour toutes les équipes. Et puis, dans ces conditions de Covid qui traînent un peu partout en Europe, les équipes sont décimées. Il n'y a pas qu'en France. Hein, donc, c'est un peu mitigé. Bon, le PSG s'en sort bien. Marseille, moins bien. Rennes, enfin, on en reparlera peut-être en détail. Mais non, c'est mi-figue, mi-raisin, effectivement.
Oui, alors, bon, certes, on dira qu'il n'y a peut-être pas d'ambiance dans les salles, mais c'est pour tout le monde pareil, Francis. Hein.
Ouais, c'est pour tout le monde pareil. Bon, le PSG, à mon avis, a eu une bonne chance de jouer en Turquie avec très peu de spectateurs, je crois 500. Ça aurait peut-être pas été la même musique avec un stade plein. Hein.
Oui, c'est sûr. Donc, quand même, le Paris Saint-Germain, donc, vous ne sentez pas qu'il y a quand même peut-être au sein du PSG, entre Leonardo et puis Dorel, il y a peut-être un courant qui passe plus complètement, qui peut se ressentir un peu sur le terrain et qui peut être utile, malheureusement, à la longue?
Je sais pas. Bah, je trouve qu'il y a eu pas mal de changements et de recrutements à l'intersaison. Des gens sont arrivés, d'autres sont partis. Neymar était bienvenu, là il est reblessé. Enfin bon, c'est un peu délicat. Mais je pense que le PSG a bien démarré tout de même sa saison. C'est pas le PSG des années précédentes où le PSG était invaincu pendant X matchs. Bon, cette année, il y a déjà deux défaites. Mais bon, moi, je mets ça sur le dos du Covid.
Hein. Oui, et puis bon, peut-être une programmation un peu plus dans le temps, hein, pour être, je dirais, dans une forme optimale au niveau des Coupes d'Europe et même du championnat.
Ben oui, parce que d'ailleurs, dans un des commentaires de l'équipe de Turel d'hier, je crois, il disait que qu'il veut presque finir l'année avec beaucoup plus de blessés qu'il a de joueurs, quoi. Et ce qui est vrai aussi pour les autres clubs européens. Donc, il y a peut-être une densité de matchs aussi qui est un peu trop forte, je pense.
Ah ben c'est sûr qu'après l'arrêt dû au Covid et puis la succession de matchs, ça fait effectivement beaucoup, hein, surtout pour des joueurs qui jouent sur le plan international. Enfin, il y a un bon quand même, hein, Francis, dans cette équipe du Paris Saint-Germain.
Ouais, il y a un bon, mais il n'y a pas de public. Donc, ça motive un peu aussi les joueurs, hein, parce que très honnêtement, jouer dans un stade vide, ça ne doit pas être très motivant.
Mmh. Bon, Marseille, c'est très mal engagé. Rennes, finalement, Rennes est à son niveau, hein, dans un groupe qui n'est pas facile quand même. Hein.
Non, Rennes s'en sort pas trop mal. Bon, ils ont un bon gardien. Apparemment, le dernier match, il a été très bon. Marseille, c'est trois cadeaux défensifs, hein, les trois buts qu'ils prennent contre Manchester. Franchement, la défense, c'est une passoire, là. Mais bon, c'est Marseille. On verra s'ils remontent un peu la pente dans le cours après ces quelques matchs.
Et l'Europa League, donc Nice et Lille, qui peuvent tirer leur épingle du jeu, qui peuvent toutes les deux se qualifier, hein, pour le tour suivant.
Ouais, toutes les deux peuvent se qualifier. Nice avait perdu sérieusement son premier match. Je crois qu'ils avaient pris 6 buts. Et puis bon, ils sont bien revenus. Lille avait été gagné à Prague. Et il s'est fait un peu surprendre par le Glasgow chez lui. Hein. Il perdait 2-0 à la mi-temps. Bon, ils sont bien revenus à 2-2. Je pense que Lille a de bonnes chances de sortir de son groupe. Nice, on peut l'espérer aussi.
Alors Francis, comme on fait un tour de l'actu foot de ce mois-ci, même question qu'à Pierre et puis qu'à José. Hein. On a parlé du championnat, on a parlé des Coupes d'Europe. Un petit mot sur l'équipe de France, qui elle ne perd pas, même si elle n'est pas toujours très brillante dans le jeu.
Non, elle n'est pas très brillante. Deschamps a fait quelques tests sur les matchs, je dirais, amicaux. Bon, elle n'est pas très brillante, mais le résultat est toujours là. On a encore battu la Croatie.
Oui.
C'est comme les matchs, on en parle, on fait une petite parenthèse, le match des filles hein, pour la qualification du championnat européen.
Justement, vous qui êtes un spécialiste du foot féminin, vous avez vu aussi les matchs des filles. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, on sait qu'il y a carrément des polémiques au sein de cette équipe de France. Hein. La guerre, elle est ouverte hein, entre donc la sélectionneuse Corinne Diacre et puis Charlie Gauze.
Ouais, mais bon, les résultats sont là tout de même. Hein. Le dernier match, on ne l'a pas gagné en Autriche, mais moi j'ai regardé tout le match parce que franchement, ceux qui ne l'ont pas vu ont raté quelque chose. J'ai vu un beau match de foot hein, de féminin. Bon, certains grincheux diront, ouais, c'est pas comme les mecs, mais enfin bon, vous savez ce que j'en pense, hein, le foot féminin, c'est effectivement pas le foot masculin, mais bon, c'est plus agréable à regarder, ça fait moins de cinéma, mais franchement, le match était d'un bon niveau technique. Par rapport au précédent contre la Macédoine, il y avait un écart tel que, bon, vous savez, quand vous engagez, quand vous faites une passe à l'aile, qu'on centre et il y a un but au bout de 30 secondes, tout de suite on se dit le niveau n'est pas le même. Mais bon, est-ce que c'est une volonté de Corinne Diacre de créer une émulation en mettant des jeunes et en écartant provisoirement certaines anciennes? Je ne sais pas. On n'a pas de nouvelles de ce côté-là. Enfin, moi, je n'ai pas d'informations en tout cas.
Oui, mais est-ce que sur le long terme, ça peut jouer? Parce que il va pas y avoir comme ça des conflits régulièrement sur les 2-3 ans qui arrivent. Parce qu'on va rater les grandes échéances en 2022, même le mondial après. On va souper, Francis, sinon. Hein.
Mais comme je dis, les résultats sont là. Hein. Même ceux qui arrivent, celles qui arrivent en équipe de France, sont au niveau. Hein. Après, est-ce que les grosses nations évoluent dans le même sens? Je ne sais pas. Mais bon, les polémiques, pourquoi elle n'a pas pris Amandine Henry? Après, c'est peut-être un vœu aussi pour elle d'essayer de nouvelles joueuses et de mettre un peu sur la touche les anciennes, parce que bon, c'est vrai qu'elles sont plus toutes jeunes tout de même, bon, elles sont pas vieilles, mais bon. Après, il faut préparer l'avenir, toujours jouer avec les mêmes joueuses, et créer une petite obstruction aux jeunes qui veulent s'épanouir. Moi, personnellement, je fais pas de polémique là-dessus.
Non, mais bon, il y a cette stature lyonnaise hein, qui forme quand même la stature d'équipe de France d'une façon générale. On sait que le président Hollas a demandé une autre vue avec la fédération française. On sait que le foot féminin et puis le foot masculin, c'est différent. Il faut surtout pas les comparer. On va finir, même question qu'avec José et puis Pierre, sur les droits de télé, vous en pensez quoi de ce problème de Média Pro qui peut remettre en péril le foot français?
Le problème, c'est que la mariée était trop belle et que la Ligue ou la Fédé vend un peu trop cher ses championnats. Hein. Bon, c'est malheureux parce que Média Pro, enfin, c'est ce qui permet aux clubs professionnels de vivre et de survivre. Mais à vouloir trop vendre trop cher, voilà le risque auquel on s'attend. Hein. Média Pro, apparemment, l'attribution de l'appel d'offres, pas grand monde, au moins en France, ne les connaissait. Voilà. C'est inquiétant tout de même. Comment ?
Merci en tout cas, puis on se retrouve le mois prochain avec José et puis Pierre, hein, alors soit dans nos studios, soit en mode confinement. On verra ça par la suite. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Merci à notre ami Damien d'avoir été ce matin aux manettes. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour Tribune Sport, 10h-11h. Alors on parlera, j'ai dit, du Tour de France 2021 dévoilé aujourd'hui. On reviendra sur le rugby et le tournoi à destination. Et puis on parlera un peu des difficultés rencontrées par le sport amateur à l'occasion justement de ce nouveau confinement. Bon dimanche à toutes et à tous.
De 52 000 cas testés positifs. Et la rentrée.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu. 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. 6000 patients Covid en réanimation, c'est ce qu'annonce l'Institut Pasteur pour la mi-novembre. De son côté, Santé publique France fait état de 35 641 nouveaux cas en 24 heures. C'est nettement moins que le record atteint samedi dernier de 52 000 cas testés positifs. Et la rentrée des classes, c'est demain. Malgré le confinement, les élèves retournent à l'école. De nouvelles mesures sanitaires ont été prises pour cette rentrée. Le port du masque devient obligatoire pour les enfants dès 6 ans. En maternelle, la distanciation s'impose entre les élèves de différentes classes. Dans les collèges, une seule salle doit être attribuée par classe lorsque c'est possible. Pour emmener leurs enfants à l'école, les parents doivent être munis d'un justificatif de déplacement scolaire. Covid-19.